a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, la capitale américaine, au micro de présentation John Linden. Michel Joseph assure la mise en onde de ce programme. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après ceci. Vous êtes donc sur VO Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Les États-Unis ont annoncé ce vendredi des restrictions de visa pour le Ghana. Washington reproche ce pays de ne pas coopérer pour le rapatriement de ses ressortissants expulsés des États-Unis. Conséquence, des restrictions relatives aux visas vont donc s'appliquer à partir du 4 février, c'est-à-dire lundi, à certaines catégories de demandeurs. Le communiqué du département américain de la sécurité intérieure est sans équivoque. Les États-Unis cesseront de délivrer tous les visas de non-immigrants aux employés domestiques des diplomates ghanéens en poste, tandis que la période de validité des visas touristes et affaires sera limitée à un mois avec entrée unique pour tous les salariés du gouvernement et du Parlement ghanéen. Que pensez-vous de cette décision des autorités américaines et de façon plus générale, que pensez-vous de l'arme du visa très souvent brandie par les États-Unis à l'égard de certains pays, notamment africains? Voilà qui constitue le menu de l'Amérique et vous ce soir. Nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous. Faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001-202-619-3140. Vous écoutez l'Amérique et vous sur VO Afrique et bien sûr pour nous accompagner au cours des 20 prochaines minutes, trois invités. Depuis New York, nous aurons Monsieur Dame Babou, expert en relations internationales et président de l'ACN, entendez, African Communication Network. Monsieur Dame Babou, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir et merci.
Merci à vous d'être parmi nous. Vous restez à l'écoute. Le temps pour nous d'accueillir notre deuxième invité. Il s'agit de Lamine Condé. Il est juriste basé dans l'État du Maryland, voisin de Washington DC, la capitale américaine. Monsieur Condé, bonsoir et ravi de vous avoir dans l'Amérique et vous.
Oui, bonsoir Monsieur Lindon. Comment allez-vous?
Je vais très bien, merci. Vous restez également avec nous. Le temps pour nous d'accueillir donc le docteur Neila Roche du Centre d'études sur l'immigration ici même à Washington. Docteur Neila, bonsoir.
Bonsoir.
Merci, hein, on vous a pris un peu de cours. Merci d'avoir accepté d'être en notre compagnie. Dame Babou, je vais commencer par vous. Quel commentaire faites-vous de cette décision des autorités américaines visant donc à suspendre ou de limiter la durée des visas aux Ghanéens?
Bon, il faut d'abord dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau, en particulier avec certains pays africains. Il y a deux difficultés. Il y a des pays africains, à un moment donné, qui avaient décidé de ne plus coopérer pour le rapatriement de leurs ressortissants qui sont en procédure de déportation ici aux États-Unis. Ça avait amené des problèmes. On avait même parlé d'un pays comme la Guinée, comme la Gambie et la Sierra Leone. Mais il y a l'autre difficulté, c'est que même les immigrants africains qui sont en procédure de déportation, il y en a qui décident de ne pas du tout révéler leur origine ou bien d'entrer en contact avec leur propre ambassade ou consulat, ce qui fait que le gouvernement américain a tendance à penser que ce sont les autorités elles-mêmes qui refusent de coopérer, qui refusent d'accepter, et alors que comme la loi internationale dit qu'on ne peut pas rapatrier quelqu'un dans un pays qui ne l'accepte pas, ça pose énormément de difficultés. Mais je pense qu'aujourd'hui, pourquoi c'est plus visible, c'est dans le cadre d'un environnement global de discours anti-immigrants et plus ou moins xénophobes qui pose le problème.
Alors, docteur Neila, est-ce que vous, cette décision des autorités de Washington vous surprend?
Non, en fin de compte, il faut se rappeler que ces sanctions ont été mises en place aussi par le président Obama contre la Gambie en 2016, je pense, je ne me rappelle plus. Et donc, c'est pas nouveau. Quand les migrants viennent aux États-Unis, il y a une loi, il y a des normes. Et donc, si on outrepasse la durée de son visa et si on commet un crime à un moment donné, il faut bien que les États-Unis fassent quelque chose. Et comme à partir de 2001, je pense, il y a la Cour suprême ici disait qu'on ne pouvait pas garder indéfiniment une personne détenue, je pense que c'est 180 jours, je ne me rappelle plus, donc il fallait la relâcher. Donc les États-Unis veulent la collaboration de ces pays d'origine pour qu'ils puissent envoyer leurs ressortissants qui sont des criminels, n'oublions pas, ce ne sont pas des gens qui viennent ici, ce sont des criminels qui ont un act of removal, c'est-à-dire qu'ils ont eu une condamnation pour qu'ils soient déportés et il faut bien qu'ils le soient. Et donc, ça ne me surprend pas. N'oublions pas qu'il y a d'autres. Il y a, je pense aujourd'hui, avec le Ghana, ça fera 1, 2, 3, 4, 6 pays qui sont sur la liste des sanctions. Et donc, on ne commence pas comme ça avec les sanctions en général. Je pense que pour tout Ghanéen, je ne pense pas. On commence par juste une petite. Mise en épreuve, disons, pour dire ben il faut nous aider et puis c'est au gouvernement ghanéen de faire quelque chose de son côté.
Alors, Lamine Condé, on l'a dit, hein, le cas du Ghana n'est pas singulier. D'autres ambassades, notamment africaines, ont souvent refusé de coopérer avec les autorités américaines. Vous qui êtes juriste, est-ce qu'il y a, du point de vue juridique, justement, une exigence de leur part de coopérer?
Bon, j'espère que vous m'entendez très bien.
Je vous entends parfaitement.
Merci beaucoup de l'invitation. Écoutez, vous posez une très bonne question sur l'angle juridique. Les États qui font face aujourd'hui, bon, prenons le Ghana qui fait face aujourd'hui à cette sanction américaine, est-ce que le Ghana a le droit, sous l'angle du droit, de refuser de coopérer? Ce n'est même pas une question juridique, c'est une question de principe. Le Ghana... tout comme tout autre pays a le droit de refuser de coopérer avec les États-Unis ou un autre pays qui déciderait d'imposer une sanction concernant le visa. Maintenant, ça doit être un principe de réciprocité. Si les États-Unis ont décidé de restreindre, si vous voulez, ce visa ou l'octroi du visa au Ghana, le Ghana aussi a le droit de refuser de coopérer, mais aussi de prendre des dispositions à l'interne, de refuser les visas aux citoyens américains. Et voilà, il y a ce qu'on appelle en droit international le principe de réciprocité. Quand on vous refuse quelque chose, vous aussi, si vous êtes fort dans vos souliers, vous prenez des sanctions réciproques. Donc, encore une fois, sur le plan du droit, oui, le Ghana est dans toute la plénitude du droit de dire non, on ne coopère pas. Maintenant, il faut voir, en refusant de coopérer, M. Lindon, il faut voir le Ghana. Il ne s'agit pas de refuser. Il s'agit de voir, si vous voulez, la teneur de la sanction américaine. Je pense que ma compatriote l'a dit tout à l'heure. Elle a parlé de choses de ceux qui ont commis des crimes. Alors, il ne faut pas automatiquement refuser de coopérer. Il faut voir à l'interne pourquoi cette sanction.
Justement.
Et ceux qui doivent être rapatriés, il faut voir leur situation. Est-ce que c'est des gens qui ont commis des crimes? Si oui, moi je dis en tant qu'Africain et en tant qu'homme de droit, oui, il faut coopérer, il faut les repartir. Parce que très rapidement, je ne peux pas comprendre que vous, M. Lindon, vous me recevez, vous dans votre maison, avec tous les honneurs, et avec si vous voulez, tous les avantages. Et après, moi je mets ces avantages-là de côté, je me mets à m'apprendre à vos enfants, à faire n'importe quoi dans votre maison. Mais un jour, vous avez dit, mais attention, il faut rentrer.
Mais c'est juste la même chose. Sauf que là, c'est des cas quand même exceptionnels. Et puis, je ne vais pas me faire l'avocat du diable. Pour le Ghana, il est question de démontrer, n'est-ce pas, que les gens qu'on expulse sont vraiment issu du Ghana. Comment le démontrer? Et si le Ghana n'a pas cette preuve-là, il a raison de refuser, non, Monsieur Dambabou?
D'abord, il faut dire que un pays ne peut pas accepter quelqu'un qui se présente simplement parce qu'on parle la langue du pays ou bien on a la même couleur que les citoyens pour dire que je suis Ghanéen, je suis Sénégalais, etc. Un pays qui n'a pas les preuves. Donc quand les immigrés se débrouillent pour ne pas avoir des papiers et que le gouvernement américain ne peut pas approuver, le Ghana n'acceptera pas aucun autre pays, ni les États-Unis. Mais deuxièmement, je pense qu'il faudra atténuer un peu les lois de l'immigration, c'est que parfois on ne commet aucun délit sauf de rester plus longtemps qu'on était autorisé. Les appeler criminels en français, je pense que c'est un peu trop fort. Si on parlait en anglais, tout ce qui est délit après crime, mais je pense que les appeler des criminels, et surtout le nombre est tellement infime. On parle du Ghana qui est à moins de quoi, 300 à 400 en 2017, en 2018 par an, de déporter. Donc il n'y a pas de péril en la demeure. Je pense qu'ici, le gouvernement américain a voulu simplement lancer un signal fort, surtout avec la nouvelle ambiance qui est créée aujourd'hui. Je pense qu'il faut tenir compte de ça. Si vous comparez ça à un pays comme le Mexique, qui est à 147 000 déportés par an, il n'y a pas vraiment, on ne peut pas dire que c'est un danger pour la sécurité nationale. Et ce ne sont pas nécessairement en France des criminels. C'est souvent des gens qui ont dépassé leur temps de présence. Il y a certes qui ont commis des crimes, mais c'est vraiment l'infime minorité.
Alors, docteur Neila, effectivement, il y a ceux qui ont commis des crimes. Il y a aussi ceux qui restent au-delà du temps consacré à leur visa. On l'a évoqué tout à l'heure. Quelles sont déjà les raisons qui poussent les gens à rester au-delà de leur visa? Et puis, quelles sont les responsabilités des ambassades vis-à-vis de leurs ressortissants qui sont en instance d'expulsion?
Oui, déjà, je voudrais corriger le chiffre que monsieur vient de donner. Les 305 déportés, ce sont ceux qui ont été déportés en 2017, Ghanéens, et 243 en 2018. Donc, ils ont été déportés. Ceux qui ne le sont pas, je n'ai pas les chiffres, mais ils sont probablement beaucoup plus que ça, beaucoup plus nombreux. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des sanctions, parce que le Ghana, par rapport aux États-Unis, ne collabore pas avec le gouvernement américain. Donc, ces chiffres ne sont pas. Il fallait que je corrige un peu.
Voilà.
Mais sinon, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que dire que on va déporter tout ressortissant du Ghana qui est resté un mois ou deux après l'expiration de son visa, c'est pas vrai non plus. Je pense que c'est surtout des personnes qui ont commis des délits avec de justice, qui ont commis des crimes. Maintenant, les crimes peuvent être, je sais pas, ça n'est pas nécessaire que ce soit des meurtres, mais ce sont des crimes de par la justice américaine, et c'est pas juste un délit de d'outrepasser la durée de son visa. Donc ça aussi c'est faux. Et la responsabilité, je pense, de l'ambassade et du gouvernement de Ghana, c'est de décourager premièrement tout délit d'immigration de rester après de respecter les lois américaines, et surtout quand il y a une justice américaine qui dit bon, cette personne, elle est ici, on l'a accueillie, on lui a donné un visa, elle a commis un crime, il y a un juge qui a dit bon, il y a un ordre de déportation contre cette personne. Je pense que et la plupart sont des overstays, c'est-à-dire qu'ils sont venus avec un visa, il y a des documents, ils ont exactement leur identité prouvée, et le Ghana à ce moment-là peut très bien les reprendre et accepter de les reprendre. Je pense que dire que les sanctions de visa sont comme une arme, je ne pense pas que ce soit nécessairement vrai, parce que comme on a utilisé un visa pour venir ici et commettre un crime ou rester au-delà de son visa, on se demande aussi à un moment donné, de notre côté, des États-Unis, pourquoi continuer à donner des visas si on ne respecte pas les lois américaines.
Voilà. Vous restez avec nous, chers invités. Le temps pour nous de prendre quelques auditeurs. Alphonse Mbouaki, depuis la RDC. Bonsoir, Alphonse.
Bonsoir, John.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette décision des autorités américaines?
Mais Alex, cette décision est de la souveraineté des États-Unis, hein. Donc, moi, je pense que il y a des lois américaines qu'on doit respecter, comme disait l'un des intervenants. Donc, je pense que les États-Unis ont le droit d'élaborer des lois et de les appliquer lorsqu'on ne les respecte pas. Vous savez, si ce sont des criminels, quelque part aussi, si ce sont des criminels, les États-Unis doivent comprendre qu'il y a des criminels américains aussi. Tous les crimes ne sont pas commis par les étrangers. Mais quelle pénalité les États-Unis infligent aux criminels américains? Ils ne peuvent pas le faire. L'Amérique ne peut pas infliger une pénalité aux étrangers qui sont criminels.
Voilà, c'est entendu, Alphonse Mboaki. Merci pour votre point de vue, qui n'est pas forcément celui de Mahamadou Traoré, le bilinguiste. Bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous les auditeurs de VOAF.
On vous écoute.
Bien, donc je suis pas du tout d'accord de ce qui se passe aux États-Unis, puisque c'est avant tout des Africains qu'on est en train de les faire déporter de façon presque illégale. Vous dites que en 2017 il y a eu plus de 300 déportés, en 2018 à peu près 200. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis sont en train de, il faut le dire, c'est une politique de Donald Trump. C'est dire que c'est des criminels. Certes, il y a des criminels, mais ils ne sont pas tous des criminels. Des gens, en réalité, ont été déportés puisque les États-Unis en ont marre des Africains ou bien des ressortissants d'autres pays. Donc, c'est un moyen qu'ils sont en train d'utiliser pour faire extraire des gens d'autres continents, surtout les Africains des États-Unis d'Amérique.
Merci.
Donc, cette politique, elle n'est pas la bienvenue.
Merci Mahamadou Traoré, le bilinguiste. Je crois que votre point de vue est également partagé par Ben Benoît, congolais. Bonsoir Ben Benoît.
Bonsoir Véronique.
On vous écoute. On vous écoute.
Oui, moi je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis. Nous voyons chez nous, c'est une RDC, précisément c'est tout ça. Nous voyons beaucoup d'Américains qui sont en train d'évader à leur occupation et personne ne les inquiète. C'est-à-dire aux États-Unis commencent à traiter les États africains comme si c'était des sous-États des États-Unis, alors que ce sont des États de droit, des États qui sont indépendants. C'est-à-dire, le président Trump doit connaître réellement que chaque personne a un droit et chaque vie humaine est sacrée. Il doit respecter les Noirs, nous ne sommes pas des êtres animal, nous sommes des êtres humains, nous pensons de même que lui-même, il n'est pas venu jusqu'à la tête de la grande puissance pour nous traquer, nous les Africains et les autres. Et alors qu'il y a d'autres pays occidentaux qui commencent à traquer en mal les pays, quoi, les États-Unis, Donald Trump ne dit rien, ne dit mot. C'est vrai qu'en Afrique, nous, ils commencent à s'encharner et faire tout et traquer comme si c'était des punitions, comme si nous sommes des prisonniers de Guantanamo. Avec tout cela, nous ne pouvons pas traiter, nous ne pouvons pas craindre. Nous demanderons comment il arrive à payer son
institution.
Alors, il arrive à comprendre que nous sommes en Afrique. Et nous...
Merci Ben Benoît. Et on va terminer par Junior Kinoumbé, qui pense plutôt qu'il faut un dialogue entre les deux pays. En quelques mots, Junior, votre réaction.
Oui, bonsoir, monsieur. Moi, je pense que non, il faut qu'il y ait un dialogue entre les deux pays, pour qu'ils trouvent vraiment une conclusion entre les deux pays, une solution qui pourra maintenir leurs relations, qui a toujours été bonne. Moi, je pense que non, les États-Unis doivent aussi prouver au Ghana que non, les personnes là sont vraiment des Ghanaiens. Il faut qu'ils le prouvent. Alors, par là, les Ghanaiens pourront aussi prendre une décision qui pourra peut-être les amener
voilà
à très bonne solution.
Merci pour toutes ces réactions de nos auditeurs. Donc, sur Facebook, on va reprendre avec nos invités M. Lamine Condé, qui est juriste dans l'État du Maryland, d'Ambaboué. Espérant en relations internationales, nous l'avons au téléphone depuis New York, et puis le docteur Neila Roche, qui est du centre d'études sur l'immigration ici à Washington. Lamine Condé, qu'advient-il des personnes en situation irrégulière que les États-Unis ne parviennent pas à expulser?
Bon, écoutez, si le Ghana refuse de coopérer, alors les États-Unis n'ont pas le choix, puisque vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à quitter le pays, ça rentre dans le cadre du droit international. Donc, ça a eu de trouver une autre solution. Donc, ils sont obligés de passer par la diplomatie avec le Ghana. Donc, on n'a pas le choix. Et je reviens sur ce que disait Madame tout à l'heure. Je suis complètement d'accord avec elle. Et quand elle a corrigé notre débatteur en disant que il faut faire attention quand il y a une décision prise par les États-Unis en rapatriant certains. Alors, il faut voir ceux qui doivent être rapatriés. Pas forcément parce que vous avez dépassé votre séjour, non. Et généralement, dans beaucoup de cas, ou les 99% des cas, ce sont des gens qui ont commis des crimes. Alors, ces crimes, quand vous voyez les crimes, il y a beaucoup d'éléments. Alors, et c'est pourquoi, et encore une fois, moi je dis que je partage ce qu'elle a dit. Maintenant, c'est pas facile de rapatrier quelqu'un qui a simplement allé au-delà de son séjour. C'est pourquoi il faut faire attention à travers ce débat-là. Il faut faire attention quand vous êtes dans un pays avec les crédits cards et les violences domestiques. Tout ça rentre en ligne de compte.
Alors,
voilà.
Je vais poser très rapidement une question à Dambabo. Dambabo, est-ce qu'on peut s'attendre à une réplique de la part du gouvernement ghanéen dans cette situation?
Je ne peux pas l'affirmer, mais je m'attends à une coopération plutôt et à essayer de trouver une solution. Parce que malgré la position de mes deux co-débatteurs, moi je continue à dire qu'on n'a pas de statistiques pour dire qu'ils sont tous des criminels. La situation que j'ai vue ici à New York, la plupart, c'est des gens qui viennent pour chercher à être des réfugiés, qui font des demandes de réfugiés pour dire que c'est la circonscription des femmes, etc. La plupart des gens qui sont expulsés, selon ma connaissance, madame a dit qu'on a expulsé 300 ou 200 et quelques. Cela veut dire donc qu'il y a des expulsions. Mais les autres, je n'ai pas de statistiques. Je pense qu'il y en a plus, il ne faut pas le dire moi, en tant que débatteur. Il est clair que l'entrée dans le pays de l'autre, ce n'est pas un droit, c'est un privilège qu'on donne à quelqu'un. Donc c'est le pays qui est souverain, qui organise la manière dont il accueille les gens. Mais les informations, on doit aussi chercher à dire exactement comment ça se passe. Si on a les informations, et je n'ai pas d'informations qui me dit qu'il y a 80% de criminels. Je n'ai pas vu ces statistiques quand vous m'avez demandé de participer à cette émission. Je suis allé faire des recherches. Et je ne suis pas tombé sur des informations de cette nature.
Alors, docteur Neyla, une question. Qu'est-ce qui coûte plus cher, expulser ces sans-papiers ou les garder ici pour le gouvernement américain?
Oui, en tout cas, les garder ici, ça veut dire quoi pour ceux qui ont commis des crimes et qui ont servi leur sentence, qui ont été en prison, disons, 2 ans, 3 ans, et qui sont sortis parce que c'était ça la sanction, et ils ne peuvent pas être rapatriés, ils sont laissés, ils restent aux États-Unis, et donc illégalement, mais ils sont aux États-Unis, donc ça n'est pas un coup pour les États-Unis, voyez-vous, c'est peut-être ces gens-là vont aller travailler au noir, etc. Donc il ne s'agit pas de coups ici, il s'agit de personnes qui ont commis des crimes, et je le redis, ce sont des personnes qui ont commis des crimes. Moi, je n'ai pas les statistiques, mais je peux les avoir. Vous regardez les données de ICE qui a toutes les statistiques. Donc ce sont des gens qui ont commis des crimes et qui devraient retourner dans leur pays.
Alors, 10 secondes pour chacun pour le mot de la fin. Dambabo.
Je voulais dire, c'est simplement que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un pays peut s'organiser pour dire, voilà, mes lois, on doit les respecter, on ne doit pas les respecter.
Voilà.
Mais je vois mal un pays dire qu'on vous dit c'est un Ghanéen, donc il faut le prendre et on n'a pas les preuves.
Merci.
On doit les prendre, ça, je ne sais pas comment.
Lamine Kandé, 10 secondes pour le mot de la fin.
Oui, les États-Unis sont souverains, en conclusion, les Africains doivent se prendre en charge. Les dirigeants doivent prendre les Africains en charge.
Docteur Neyla, 10 secondes pour le mot de la fin, on en aura terminé.
Je pense qu'il ne faut pas parler, changer de débat, parler de racisme, parler de sanctions comme ça. C'est surtout appliquer une loi.
Merci.
De loi américaine.
Merci beaucoup. Vous étiez à l'écoute de l'Amérique et vous. Michel Joseph était à la console. Franklin Silva qui était à la régie. John Lyndon à la présentation. Merci d'avoir suivi. Bonsoir.